Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Père, je te remercie pour ta merveilleuse présence dans ce lieu. Saint-Esprit, viens faire ton œuvre dans les cœurs ce soir. Seigneur, qu'un esprit de repentance soit dans ce lieu. L'esprit qui nous convainc que tu nous aimes. Que la perception du Père de tout un chacun ce soir soit renouvelée. Que tous puissent voir, commencer à percevoir encore davantage ô combien tu nous aimes. Ô combien tu es pour nous, ô combien tu es avec nous. Car tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors Saint-Esprit, prend toute la place ce soir. Tu es venu pour convaincre de justice, de péché et de jugement. Prends toute la place, Esprit de Dieu. Je m'abandonne à toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je sais, tu as transformé les vies ce soir. Alors merci de faire ton œuvre dans les cœurs, afin que tous soient davantage enracinés et fondés dans l'amour, dans le nom de ton Fils Père. Amen. Merci frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Merci au groupe de louanges. Oui, on peut les encourager très très fort. Alors en priant ce matin et en partageant avec l'équipe pastorale, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, pour dire à Mika, de continuer sur le thème qu'on avait commencé la semaine dernière. C'est-à-dire sur le thème qu'on avait commencé, excusez-moi, vendredi soir et dimanche matin, parce que dimanche matin, c'est vrai qu'on a fait un message condensé, mais pas tout le monde a pu recevoir ce qu'il fallait, puisqu'on a vu des principes simples, nouveaux pour certains, mais je vous garantis extrêmement puissants pour ceux et celles qui s'efforcent à les mettre en pratique. Un frère cette semaine m'a envoyé par exemple un SMS pour me dire comment il a commencé à mettre en pratique ce qui a été partagé et il a vu déjà les différences dans sa vie. Parce que la parole de Dieu est efficace, nous dit les Écritures. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, séparant esprit et âme, jointure et moelle, et elle juge les pensées et les sentiments des cœurs. Elle est aussi efficace que ça, pour nous transformer et nous renouveler. Donc ce soir, on va voir le caractère du Fils, pour libérer la puissance du Fils, numéro 3. Et j'aimerais juste commencer par un rappel, où nous avons vu vendredi dernier, que le Fils, les fils que nous sommes, lorsque nous prions, nous devons avoir cette révélation du Fils. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Mais on a vu qu'un fils, donc, a la révélation du Père, et la qualité principale du Père, c'est que Dieu est amour. Celui qui n'aime pas, nous dit l'apôtre Jean, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il est impossible pour un véritable chrétien qui connaît vraiment Dieu, qui connaît vraiment son Père, de ne pas aimer son prochain. Il aime peut-être la religion, il aime peut-être l'Église, mais c'est dans l'Église ou dans la religion, il n'a pas encore rencontré le Dieu vivant et vrai. Et on a vu ensemble que pour ça, il était important pour nous, lorsqu'on priait, de faire attention sur quel trône on était assis, quelle motivation poussait notre prière à s'exprimer. On a vu qu'il y avait le trône de l'amour, le trône de la peur, le trône des ambitions personnelles. Et le trône de la peur et de l'ambition personnelle fait en sorte que les effets de nos prières sont fragiles, fébriles et inefficaces. Mais si tu pries sur le trône de l'amour, crois-moi, ta vie prière va commencer à être empuissancée et transformée. Et dimanche, on a vu ensemble que l'amour est réellement une arme redoutable. C'est l'arme absolue pour vivre une vie extraordinaire sur cette terre. C'est ce que Dieu veut pour nous. Nous avons vu dimanche dernier que l'amour est une arme puissante parce que nous avons parlé du fruit de l'esprit. Et on avait vu que le fruit de l'esprit est une arme surpuissante pour faire face aux circonstances et qu'elle libérait dans l'atmosphère la puissance de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous avons vu que le fruit de l'esprit est une arme extraordinairement puissante. On a vu dans Galates 5, verset 22, où il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas, certes, de telles choses. Et donc, ça c'est le fruit de l'esprit. Mais on avait bien creusé dimanche, donc je fais juste un rappel ce soir pour qu'on puisse poursuivre ce soir. Le fruit de l'esprit, on a vu ensemble, correspond au désir du Saint-Esprit. Et que c'est souvent, lorsque la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, etc., c'est souvent un moyen pour nous de réagir de manière opposée aux réactions du monde ou aux réactions de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Parce que dans Galates 5, verset 17, la Bible dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc quand quelqu'un te fait mal, quand un ennemi pourrit ta vie, la chair crie « vengeance ». Et Dieu crie « pardon ». Et là, il est plus facile souvent pour nous de répondre au mal par le mal. Il n'est pas facile de triompher du mal par le bien. Et on voit ici, lorsque la parole de Dieu nous parle des désirs de la chair et des désirs de l'esprit qui correspond au fruit de l'esprit, un peu plus loin, juste après Galates 5, 17, la parole de Dieu énumère les désirs de la chair en parlant de la jalousie, l'envie, les querelles, la débauche, les adultères, la fornication, etc., etc., etc. Des choses qui, le meurtre, le vol, le mensonge, bref, toutes les choses semblables à ça sont les désirs de la chair et ça pourrit la vie, ça pourrit les relations. Et Dieu dit, mais portez le fruit de l'esprit qui correspond au désir du Saint-Esprit. Et le fruit de l'Esprit, donc, sont les désirs du Saint-Esprit. Et les désirs du Saint-Esprit sont une expression de l'amour. On avait vu ça ensemble. Et quand on s'efforce à réagir de manière opposée aux circonstances, d'une manière opposée à ce que la chair nous pousse à faire, on libère dans l'atmosphère la puissance spirituelle de Dieu qui est capable de changer en notre faveur même le cœur de nos ennemis. On a vu ensemble quand l'apôtre Paul et Silas sont en prison, battus à coups de fouet, le dos en sang, on les a mis en prison et battus sans raison. Et ils sont là dans la nuit, ils auraient pu se dire c'est n'importe quoi, ce qu'ils nous ont fait c'est injuste. Et au plein milieu de la nuit, la parole de Dieu dit qu'ils se sont mis à adorer, à faire monter vers Dieu des chants de louange et de reconnaissance. Et la puissance de Dieu a ébranlé la prison à un tel point que tous les prisonniers et eux ont eu les chaînes aux pieds brisées et les geôliers ont eu la crainte, la tremblade de leur vie, le cap-cap de leur vie. À un tel point qu'ils sont venus voir l'apôtre Paul et Silas pour dire « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Et ça, c'est important. Le fruit de l'esprit est une arme ultime, surpuissante, pour dégager la puissance de Dieu. Oui, ce n'est pas facile à faire, mais on va voir ce soir que nous pouvons quand même le faire, non pas par notre propre force, car il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que vous aplanirez toute montagne. C'est par l'Esprit du Seigneur que tu peux aplanir la montagne de la vengeance, la montagne de l'amertume, la montagne de la jalousie, la montagne des querelles, la montagne de la vengeance ou de l'orgueil. C'est par l'Esprit du Seigneur, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et donc, lorsque tu pries à partir du trône de l'amour et que tu te rends compte que Dieu désire que tu pries en faisant sa volonté, notre Père qui est aux cieux, tu es un fils, ton Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Et que lorsqu'on comprend que la volonté de Dieu correspond au désir du Saint-Esprit, qui est le fruit de l'Esprit, cela signifie que quand tu marches et que tu manifestes la volonté de Dieu, alors tu manifestes une expression de l'amour de Dieu pour ta vie. Lorsque dans ton travail, par exemple, tu as quelqu'un qui va te pourrir la vie, comme moi, ça m'était déjà arrivé à l'époque, et que tu le pardonnes et que tu ne l'en veux pas. Et il attend que tu réagisses avec animosité, et il te voit que tu n'en veux pas, tu gardes ta paix. Parce que lorsque tu pardonnes, le premier à être libéré, c'est toi-même. La personne s'en fiche parfois que tu lui pardonnes ou pas. Elle n'est pas là du tout avec toi. Tu demandes pardon, elle s'en fiche. Elle te renvoie parfois ton pardon dans ta tête. Mais quand tu pardonnes, c'est toi le premier à être libéré. La prison est ébranlée. Parce que le non-pardon nous enferme souvent dans la prison de la vengeance, de l'amertume, des querelles sans fond, sans fin. Et c'est pour ça que nous devons apprendre à manifester à partir du trône de l'amour lorsque nous prions la volonté de Dieu. Et les désirs de Dieu correspondent à la volonté de Dieu. Et les désirs de Dieu sont appelés dans Galates le fruit de l'Esprit. Et nous avons vu dans Galates 5, donc verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et je vous disais que le fruit de l'Esprit, c'est donc l'obéissance aux désirs de l'Esprit qui correspondent à la volonté de Dieu. Quand la situation, comme Paul et Silas, est triste, comme moi j'ai perdu ma maman il y a quelques temps de ça, pour certains d'entre vous étiez là, j'ai habité en Afrique du Sud, c'était dur, je n'avais pas vu pendant quelques mois. J'aurais pu crier en disant « Seigneur, c'est injuste, j'ai pas vu ma maman et là je dois repartir faire ses funérailles. Je vais la voir dans son cercueil. » Et là, tu souffres dans tes émotions. Là, c'est dur. Une précieuse maman. Mais tu as le choix. Et lorsque je suis parti dans l'intimité, dans le lieu secret, Dieu m'a fortifié. Et je lui ai dit non, j'irai pour faire des funérailles qui vont l'honorer. Et j'irai pour encourager toute ma famille, mon père, mes frères et ma sœur, pour lui dire, attends, regardez comment c'était une bonne maman. Et honorer lors de ses funérailles, non pas parce qu'elle est morte, mais parce qu'elle vit aujourd'hui auprès de Jésus-Christ. Là, c'est réagir à l'opposé. Mais quand tu fais ça, je te garantis, la puissance de Dieu t'envahit. La paix de Dieu t'envahit. La joie de Dieu t'envahit. Tu commences à être consumé par l'amour. Pourquoi ? Parce que le fruit de l'Esprit, c'est une facette, plusieurs facettes de l'amour de Dieu. Et je vous ai dit dimanche et je redis ce soir. Le fruit de l'Esprit, oui, c'est l'amour, mais aussi la joie. Et la joie, c'est l'amour qui s'amuse. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour et la joie, oui, mais c'est aussi la paix. Et la paix, c'est l'amour qui se repose. Le fruit de l'Esprit, c'est aussi la patience. Et la patience, c'est l'amour qui endure. Le fruit de l'Esprit, c'est aussi l'aimabilité. Et l'aimabilité, c'est l'amour qui respecte. Le fruit de l'Esprit, c'est aussi la bonté. Et la bonté, c'est l'amour en action. Le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. Et la fidélité, c'est l'amour éprouvé. Le fruit de l'Esprit, c'est aussi la douceur. Et la douceur, c'est l'amour qui s'exprime. Le fruit de l'Esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est l'amour au contrôle. C'est une facette de l'amour. Et quand tu manifestes ça, quand je vous expliquais dimanche, je vous disais que le fruit de l'Esprit est une arme redoutable. Pourquoi elle est redoutable ? Parce que c'est l'amour dans plusieurs facettes. Et l'amour est l'arme absolue. Pour triompher de tout ce qui pourrit ton âme. Pour triompher de tous les soucis qui viennent affecter ton cœur. Et c'est pour ça que c'est important. Le fruit de l'Esprit est donc une arme ultime, car rien ne résiste à l'amour. Rien. Galates 5, verset 16 nous dit donc, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ça ne nous dit pas, attendez, bientôt, un jour vous pourrez marcher quand tu auras 20 ans de vie chrétienne. C'est faux. que l'apôtre Paul s'adresse ici à l'église de Galatie. Il dit aux chrétiens de Galatie qui étaient devenus religieux, trop religieux, qui voulaient mériter la vie de l'esprit par leurs efforts. Or, c'est par grâce, au moyen de la foi. Il dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ça signifie que c'est possible. Pourquoi cela est possible pour nous, enfants de Dieu ? Parce que les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons reçu dans nos cœurs le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Romains 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc quand tu es un enfant de Dieu, au lieu de réagir comme les gens qui ne connaissent pas Dieu pourraient réagir, tu vas dans le lieu secret et tu dis « Père, je désire être comme toi. Celui qui te connaît, connaît l'amour. Et celui qui connaît l'amour, aime. » Dans l'intimité, tu désires aimer et répondre aux difficultés par l'amour. Parce que tu crois qu'il vit en toi. Et la Bible dit « Quand je suis faible, je suis fort. » Quand tu sais que de toi-même tu ne peux pas pardonner, quand tu sais que de toi-même tu ne peux pas aimer tes ennemis, mais tu sais que celui qui vit en toi peut. Tu sais que celui qui vit en toi par son esprit, c'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs. Et il ne nous l'a pas répandu en étant radin. Dieu n'a pas répandu en nous donnant une petite mesure en disant « Oh, je préfère Samuel, je vais donner une grande mesure à Samuel. Philippe, oh, il faudra que tu travailles dur pour avoir une grande mesure, toi. Oh, tant qu'à toi, Christophe, ouh !» C'est pas ça. Quand Dieu nous a donné son Saint-Esprit, il nous a répandu. Le mot « répandu » ici signifie qu'il a déversé. Comme un fleuve d'eau vive, il a déversé sur nous. Et dans Tite, chapitre 3, verset 5, il est écrit « Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême et la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Avec abondance. Le Saint-Esprit a été répandu sur toi et sur moi avec abondance. Cela signifie que c'est possible. S'il vit en toi que tu as reçu le Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur. Non pas avec des pincettes, non pas quelques gouttes, mais avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et c'est ce que nous devons réaliser, chacun d'entre nous. Que si tu es un enfant de Dieu, c'est possible, avec sa force, de réagir en répondant par l'amour, par sa grâce. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les jours, on a l'opportunité de faire plein de choses. Mais je suis arrivé à une conclusion. C'est que toutes les choses que je fais, qu'il n'y a pas l'ingrédient de l'amour dedans, est vain. Toutes les choses que je peux faire qui sont bonnes mais qui ne sont pas motivées ou qui je ne cherche pas à être conduit par l'amour, c'est une chose creuse et vaine qui ne m'accomplit pas, qui me laisse vide, peu importe la grandeur de l'accomplissement que je peux faire. Mais si je fais même une petite chose et que je mets dans cette petite chose l'amour de Dieu, cette petite chose est capable de produire dans mon cœur une grande joie, une grande paix, qu'aucune grande œuvre ne peut faire, mais que l'amour de Dieu est capable de faire. Car 1 Corinthiens 10, verset 23 nous dit ceci, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Tout est permis, mais tout n'édifie pas. On peut faire tous plein de choses, mais dans toutes les choses que nous faisons, que certaines édifient, d'autres même détruisent. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 8, nous dit ceci. Connaissez. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celle des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, c'est bien quand même déjà ça. Non ? Et il est écrit, au point de pouvoir même m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions comprendre qu'il nous aime. Parce que dans 1 Corinthiens 8, 1, il est écrit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Et nous devons chercher l'amour. Nous devons chercher l'amour, frères et sœurs bien-aimés. C'est ce qui va te préserver, c'est ce qui va me préserver. C'est ce qui va protéger ton âme. Et même quand nous ne le pouvons pas, Dieu en nous peut. Parce qu'il est le spécialiste de l'amour. Il est l'amour personnifié. Et le thème de ce soir, vous avez vu tout à l'heure sur les écrans, c'était juste là un rappel pour terminer ces quelques dizaines de minutes. Et le suivant, l'amour de Christ me presse. L'amour de Christ me consume. L'amour de Christ m'étreint. L'amour de Christ me pousse à l'action. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse. » Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. L'amour est redoutable. L'amour est extraordinaire. La mission des enfants de Dieu que nous sommes, c'est d'apprendre à aimer. Et aujourd'hui, c'est mon objectif plus que jamais auparavant. Je dis, Seigneur, en 2013, je veux tellement apprendre à aimer comme jamais. Et je prie toujours en disant, consume-moi par ton amour. Mon but est de saisir toutes les opportunités chaque jour que je peux trouver pour apprendre à aimer. Et souvent, ces opportunités se trouvent dans l'adversité. Lorsque quelqu'un, justement, te fait une crasse. Parce que c'est facile d'aimer quelqu'un que tu aimes. C'est facile d'aimer quelqu'un qui est bon et gentil avec toi. Mais l'amour de Dieu, c'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est d'aimer même tes ennemis. Excusez-moi. Et c'est ce que Dieu veut. Mon but, c'est de devenir un prisonnier de l'amour. Ça, c'est mon but. Et j'aimerais t'encourager ce soir à avoir le même but. Le prisonnier de l'amour est quelqu'un de réellement libre. Libre de l'offense, libre de l'animosité, libre de l'amertume, libre de la trahison. Parce que tu aimes. Je veux être attaché à l'amour. Et je veux t'encourager à en faire de même. Chaque jour, fais-en de ce jour un défi. Demande à Dieu, comme l'apôtre Paul, de faire en sorte que l'amour qu'il a répandu dans ton cœur ne reste pas dans ton cœur, dans un coin caché. Il ne se manifeste jamais. Mais demande-le en disant, manifeste-le. Accorde-moi l'opportunité de le manifester et d'apprendre à aimer plus. De grandir dans l'amour. C'est ce que Dieu désire. Vous savez, je crois que plus que jamais, l'empreinte réellement d'un chrétien, comme le dit Jésus, c'est de répandre au travers de lui le parfum de l'amour. Parce que le parfum de l'amour, c'est le parfum de Christ. La bonne odeur de Jésus-Christ c'est l'amour. Un amour incommensurable. Un amour qu'on ne peut pas comprendre. Un amour qui surpasse toute intelligence, nous dit la parole de Dieu. L'apôtre Paul se met à prier dans Éphésiens 3. Il dit, je me mets à genoux et je prie pour que tout le peuple de Dieu puisse comprendre ô combien est long, large, haut et profond l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu n'a pas de frontières. L'amour de Dieu aime. Il aime le pécheur. Il aime les frères et sœurs de notre église. Quelqu'un qui dit, moi je suis protestant et il n'y a que les protestants qui peuvent être sauvés. Il manque d'amour. Dieu est mort pour tous. Celui qui croit dans son cœur est sauvé. Parce qu'il croit que Jésus est mort et ressuscité pour lui. Jésus ne regarde pas dans quelle église tu vas. Il ne regarde pas quand on sera au ciel s'il est marqué sur ton front catholique, évangélique ou protestant. Parce qu'il regarde à nos cœurs. Il regarde si on l'aime. Celui qui connaît Dieu aime. Et la Bible dit, celui qui est parfait dans l'amour n'a plus peur. L'amour nous libère de nos craintes. La peur du lendemain, la peur du rejet, la peur d'être trahi. La peur de manquer de finances. La peur d'être mal aimé. La peur de tomber malade, la peur de mourir. L'amour chasse la crainte. Ton appel et mon appel en tant qu'enfant de Dieu, c'est de poursuivre l'amour. Ça doit être ton rêve. Ça doit être mon rêve. Ça doit être notre rêve. Oh, c'est pas d'avoir un grand ministère. Si tu as un grand ministère et que tu n'as pas d'amour, la Bible dit que tu ne sers à rien. Souvent, les gens disent, tu sais, moi, je suis un moins que rien. Tu veux être quelqu'un ? Aime. Quand on l'a lu tout à l'heure, si tu n'aimes pas, alors tu ne sers à rien. Mais celui qui aime, il sert à quelque chose. Parce que l'amour édifie. Et c'est ce que Dieu veut. L'amour de Dieu, ça doit être l'empreinte de la nouvelle créature que nous sommes. Parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 14, on va lire la suite, il est écrit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » La suite, s'il vous plaît. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Pourquoi toutes choses sont devenues nouvelles ? Parce que les choses ont changé ? Non ! Parce qu'il a changé ! Pourquoi ? Parce que l'amour le presse. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans son cœur. Parce que l'amour de Dieu lui permet d'aimer. Et l'amour change sa perception des situations. Et l'amour change sa perception des relations. Et cet amour change sa perception du pécheur. Il ne regarde plus personne selon la chair. Mais il regarde selon l'esprit. Pourquoi ? Parce que l'esprit est amour. Et l'esprit était répandu dans nos cœurs. Et donc il ne juge plus selon la chair. Mais il marche selon l'amour de Dieu. Et cet amour change sa perception. Quand quelqu'un est touché par l'amour de Dieu, et que s'il est dans une situation difficile, souvent, qu'est-ce qui se passe ? Dieu ne change pas la situation, mais Dieu change son cœur. Et quand son cœur est touché par l'amour de Dieu, il devient capable d'aimer, et sa perception de la situation change. Dieu n'a pas changé la situation, mais a changé lui. D'une personne, par exemple, de le voisinage qui le prenait la tête, le lendemain, il est capable de lui offrir un cadeau. Et de dire, tu sais quoi, on s'est querellé pendant des années. Je viens te demander pardon, même si peut-être il a raison. Parce qu'il recherche la paix, parce qu'il recherche l'amour. Qui est vainqueur là-dedans ? Lui-même. Lui-même. L'amour change notre perception. L'amour change ta perception de ta femme. L'amour change ta perception de ton mari. Parfois, dans les couples, au bout d'un certain temps, il y a tellement de querelles, que l'amour a tellement fané, qu'on voit que les défauts. On n'est plus capable de mettre son mari ou son épouse sur un piédestal et l'honorer. On ne voit même pas qu'on marche selon la chair. Mais si tu marches selon l'amour de Dieu, ta perception change. Tu es transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Et tu commences à manifester le fruit d'esprit. Parce que Dieu nous aime et il a répandu sur la croix son amour pour toi. Chaque goutte de sang que Jésus a versé sur la croix crie « Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'ai racheté ! Je t'ai libéré ! Je t'ai délivré ! Je t'aime ! Regarde mon sang pour toi qui était versé ! Moi, Dieu, je me suis fait homme et je me suis dépouillé parce que je t'aime ! Son sang crie « Je t'aime ! » La Bible crie plus, dit que le sang de Christ crie plus fort que le sang d'Abel parce que le sang d'Abel crie vengeance mais le sang de Christ crie « Pardon !» Miséricorde, délivrance, liberté, paix, joie. Chaque goutte de sang que Jésus a versé pour toi crie « Je t'aime ». Est-ce que tu réalises ça? Est-ce que tu comprends l'amour de Dieu pour toi? Dieu nous aime. Demandons donc à Jésus le courage d'aimer. D'aimer plus. L'atmosphère de sa présence est parfumée de son amour. Souvent, lorsqu'on voyage et qu'on va dans notre église, oh là là, s'il y a bien quelque chose dans l'atmosphère, par la grâce de Dieu, qu'on est capable de remarquer, l'onction, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il y a l'amour de Dieu? Parce que l'amour de Dieu est un parfum quand tu rentres dans une maison. L'amour de Dieu est un parfum quand tu es là, tu te sens bien. Tu vois, je connais ce parfum. Je suis comme à la maison. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Philippiens 2, verset 1 nous dit « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a donc quelque soulagement dans l'amour, le mot charité c'est amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » C'est ce que l'apôtre Paul dit, écoute, si tu sais que Jésus t'aime, si tu sais que l'amour est en toi, si tu sais que son Saint-Esprit a répandu l'amour en toi, alors comprends, si tu sais que ta vie chrétienne t'a libéré du stress, de l'oppression, de la dépression, de ce que tu veux, alors il te dit, si tu as trouvé la consolation en lui, fais en sorte que cette consolation-là soit manifeste aussi envers les autres. Car les principaux commandements, c'est les principaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est « Oh Jésus, transforme-nous à ton image. Rends-nous conformes au merveilleux Dieu que tu es. » Je dis « Seigneur, donne-moi un amour instoppable. Un amour qui ne peut pas être stoppé. » Je me souviens, comme je disais au groupe de louanges tout à l'heure, quand je travaillais encore, il y a quelques années de cela, dans mon bureau, les gens venaient parfois par méchanceté faire des sacrifices de cabri le matin, de chat noir mort. Une fois, il y a eu un culte démoniaque le soir sur mon bureau. Il y avait plusieurs bureaux, mais ils sont rentrés dans le bâtiment. Ils ont fait un culte démoniaque sur mon bureau. Tout le peu d'employés avaient la tremblade le matin. Et moi, je dis, ah, il connaît que je suis dans la place. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Je lui mets une correction dans le nom de Jésus. Et quand il y avait ça, parfois ça arrivait que l'amour de Dieu venait tellement dans mon bureau, que la gloire de Dieu était tellement épais dans mon bureau, que je me mettais à pleurer sans contrôler, touché par l'amour du Père, en disant « Waouh !» Et au combien, quand je ressentais de là, qu'est-ce que j'aimais, tout peu de personnes me faisaient du mal. C'était impossible pour eux de me faire du mal. Tellement j'étais environné de l'amour du Père. Pierre dit « Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» Qui peut te faire du mal à ton âme si tu es zélé pour l'amour? Les critiques ne rentreront pas. La trahison ne t'affectera pas. La jalousie ne t'affectera pas non plus. La calomnie ne te touchera pas. Le mensonge ne t'affectera pas. Parce que tu es zélé pour le bien. Et tu cries, Saint-Esprit, tu vis en moi. Aide-moi à aimer plus encore. Rends mon amour instoppable. Jésus, toi, tu as été craché dessus. Jésus, toi, tu as fait du bien partout où tu allais. Et on t'a mis sur la croix. Tu as ressuscité les morts. Tu as guéri les malades. Tu as redonné aux aveugles la vue. Et pourtant, ces mêmes gens avec qui tu as fait du bien t'ont trahi. Et ils ont dit à la fin, crucifie-le. Tu as pris soin de Judas et il t'a trahi. Tu as aimé les gens et ils t'ont rejeté. Tu étais tout seul sur la croix. Et pourtant, sur la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quelqu'un me dit, la croix, si Dieu était vraiment Dieu, il ne serait pas parti sur la croix parce que la croix est un acte de faiblesse. Il faut être fort pour pardonner tout ça. La Bible dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La folie de la croix manifeste, exprime l'amour extravagant, exubérant de Dieu pour toi et pour moi. Parce que le Père nous aime. Et il voulait que toi et moi on entende le cri du sang sur la croix qui crie pour toi et moi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est son cœur pour nous. Et quand tu sais qu'un Dieu comme ça t'aime, tu as envie d'être consumé par son amour. Tu veux dire, Jésus, aide-moi à aimer comme tu aimes. Jésus, s'il te plaît, j'arrive pas à aimer. Souvent je crie en disant, Seigneur, je t'en supplie. Consume-moi par ton amour. Je dis, Seigneur, il y a des gens qui vraiment m'énervent. J'aimerais bien leur mettre deux calottes. Aide-moi à aimer comme tu aimes. Aide-moi à pardonner comme tu pardonnes. Presse-moi par ton amour. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous étreint. Je dis, Jésus, fais de moi un prisonnier de l'amour pour que je sois réellement libre. C'est son cœur pour son peuple et c'est ce que Dieu veut pour nous. L'amour de Christ lié à l'onction de Christ, voilà la réponse, le remède, l'antidote, la solution à tous les maux M-A-U-X de l'humanité. Car lorsque nous lisons Luc 4, verset 18, où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Quand Jésus dit ça, quand Jésus lit ça, il est en train de décrire le mal, les mots M-A-U-X de l'âme. Les différents maux de base qui affectent l'homme depuis la nuit des temps. Que tu as un problème de trahison, que tu as un problème de finance, que tu as un problème de maladie, ce qui se passe, c'est que ton cœur peut être brisé. Ce qui se passe, c'est que tu peux être captif du non-pardon, de la vengeance, de l'amertume, de la jalousie. Tu peux être captif de l'animosité. Ce qui se passe, et ça pourrit ta vie, ça ronge même ta chair, ça crée parfois des maladies. Ce qui se passe lorsque tu as un souci, lorsque tu as une déception, une frustration par des amis, des gens que tu connais, peu importe, c'est que tu ne vois plus qui tu es en face de toi. Tu es aveugle et ta perception de la situation est erronée et tu commences à être mauvais dans ton discours, mauvais dans ton partage, critique, juge avec des jugements et tu deviens aveugle parce que tu ne vois pas comme Jésus voit. Ce qui se passe lorsque lorsqu'on souffre de quelle que soit la situation, on devient opprimé, oppressé par l'ennemi. Le stress arrive et on est emprisonné par l'oppression. Par la dépression, tout est là. Mais Dieu soit loué. Quand Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'était pour restaurer ton âme. C'est pour restaurer mon âme. l'amour de Dieu et l'onction de Dieu brisent le joug de l'ennemi pour libérer nos âmes. Si les besoins basiques du corps sont le manger, le boire et le vêtement, le toit, la protection, la sécurité, les besoins basiques du corps, les besoins basiques de l'âme et de l'esprit, c'est la restauration d'un cœur brisé. C'est la libération de ceux qui sont emprisonnés. C'est le recouvrement de la vue de ceux qui ne voient plus avec l'amour. C'est la libération de ceux qui sont oppressés. C'est que tous entendent la publication de l'année de grâce et de l'amour de Dieu. Ça, ça libère l'âme. Ça, ça restaure l'âme. Ça, ça délivre. Car l'amour de Christ nous presse. Et il veut nous libérer. Il veut te libérer. L'onction nous est donnée pour être un remède pour l'âme. Aujourd'hui, vous savez, les gens dans les pays développés ne souffrent plus de la faim, vraiment. Avant, si, donc, c'était un besoin. Le premier besoin dans les pays développés, c'est le cœur brisé. Le nombre de gens qui ont le cœur brisé, riche, pauvre, moins riche, que tu aies un statut social ou pas. Ton passé a brisé ton cœur. Ton enfance a brisé ton cœur. Et ce n'est pas avec ta performance ou ta carrière que tu pourras le restaurer. Ce n'est pas avec les finances ou le matérialisme que tu pourras le restaurer. Mais l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour restaurer les cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur est sur ses enfants. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné pour faire son œuvre. Et te rendre libre, et me rendre libre, grâce à son amour, qui crie « Je t'aime ».